Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, midi à Paris. Le journal présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. À la une, cette information exclusive de notre rédaction sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Le fils du colonel Kadhafi livre sa version de l'affaire. Saïf al-Islam sort du silence. Ouda Ibrahim est là pour nous en parler. La journée d'investiture aux États-Unis a fini comme elle a débuté, sur les chapeaux de roue. Donald Trump a signé une rafale de décrets. État d'urgence à la frontière, sortie tonitruante de l'OMC, dans la droite ligne de son discours au Capitole, à charge contre l'administration Biden. Enfin, nous irons en Martinique pour le procès très attendu du leader de l'ERPRAC, mouvement contre la vie chère, alors que l'île française est toujours confrontée à une crise économique et sociale profonde. Et on ouvre donc ce journal par cette exclusivité RFI. Saïf al-Islam Kadhafi sort du silence. Dans un échange écrit avec RFI, le fils du colonel Muammar Kadhafi livre sa version de l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'ancien président est en ce moment jugé à Paris. Bonjour Ouda Ibrahim.
Bonjour Karine.
Saïf al-Islam affirme avoir supervisé lui-même le transfert d'argent à l'entourage de Nicolas Sarkozy, 5 millions de dollars. En espèces.
Oui, 5 millions de dollars en espèces qui, selon Saïf al-Islam, ont été transmis au clan Sarkozy. La question du soutien financier libyen a été abordée, explique-t-il, par le président Sarkozy et le colonel Kadhafi à Tripoli en octobre 2005. Saïf al-Islam affirme qu'il a lui-même supervisé la transmission de cette somme. 2,5 millions de dollars transmis en espèces étaient, selon lui, dédiés au financement de la campagne électorale de l'élection de 2007. En contrepartie, Nicolas Sarkozy devait conclure des accords et réaliser des projets en faveur de la Libye. La deuxième partie, soit à nouveau 2,5 millions de dollars, également en espèces, a, selon Saïf al-Islam, été remise au clan Sarkozy pour qu'il mette un terme aux poursuites concernant l'attentat contre le décédiste du TA. La Libye souhaitait que le nom de 6 Libyens impliqués dans cet attentat soit retiré de la notice d'Interpol, dont celui de Abdallah Sanoussi, le chef des services secrets extérieurs libyens et beau-frère de Kadhafi. Selon Saïf al-Islam, les valises d'argent ont été remises à Tripoli à Claude Guéant, alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, par Bachir Saleh, l'ex-argentier de Muammar Kadhafi et son homme de confiance, également prévenu dans l'affaire.
Dans cet échange avec Saïf al-Islam Kadhafi, il affirme qu'un contact entre le président Sarkozy et Abdallah Senoussi a eu lieu en 2005.
C'est ce qu'affirme effectivement le fils cadet de Kadhafi. Bien évidemment, nous n'avons pas pu vérifier ces déclarations de sources indépendantes. Selon lui, Nicolas Sarkozy a directement contacté Abdallah Senoussi, principal accusé dans l'attentat contre le décédiste du TA, condamné par contumace à la perpétuité en France en 1999. Ce contact aurait eu lieu par téléphone lors de la visite de Nicolas Sarkozy à Tripoli, alors qu'il était ministre de l'Intérieur en 2005, et il y aurait, dit-il, un enregistrement de ce contact téléphonique effectué par Senoussi lui-même. L'avocat de Nicolas Sarkozy, Maître Ingrain, estime de son côté que ces déclarations sont fantaisistes, très opportunistes et ne sont étayées par rien. À ce jour, selon lui, rien n'a été remis à la procédure.
Ouda Ibrahim de la rédaction de RFI Afrique. Tous les détails de cet échange exclusif sont à retrouver sur le site de RFI. Donald Trump a décidé de taper un grand coup et tous azimuts dès son retour à la Maison-Blanche. Le nouveau président américain a signé toute une série de décrets, pêle-mêle état d'urgence à la frontière mexicaine pour mobiliser les forces armées contre l'immigration illégale, état d'urgence énergétique aussi pour doper la production d'hydrocarbures aux États-Unis. Donald Trump a décidé, comme lors de son premier mandat, de sortir des accords de Paris sur le climat, grâce accordée aux émeutiers du Capitole, retrait également de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé, très critiquée par le président américain pour sa gestion de la pandémie du Covid. Des décrets dans la droite ligne de son discours d'investiture, très offensive, À charge contre l'administration sortante, Donald Trump, entouré de grands patrons et de sa famille. Le récit de cette journée de bascule avec Guillaume Nodin depuis Washington.
C'est un chapeau, mais c'est peut-être surtout un message. Le couvre-chef noir à bande blanche de Melania Trump empêche de voir ses yeux et de deviner l'humeur de la première dame que l'on imagine un peu maussade. Ce chapeau bien large a un autre avantage, il éloigne les importuns qui auraient l'idée de s'approcher pour l'embrasser, fussent-ils son mari et le nouveau président des États-Unis. Ce chapeau, elle ne le quitte pas de la journée. Quant avec Donald Trump, qui vient dans son discours d'accuser ses prédécesseurs de trahison, de corruption et d'incompétence, elle tourne les talons avant que la porte de l'hélicoptère qui emporte le couple Biden se referme. Elle le garde y compris quand la famille présidentielle passe par la Capitol One Arena où le milliardaire et sympathisant d'extrême droite Elon Musk vient de remercier la foule d'un bras tendu qui peut être diversement interprété. Là, Donald Trump commence à signer des décrets en public, une première, des décrets qu'il continue à signer plus tard à son retour à la Maison Blanche, notamment celui qui gracie les émeutiers du 6 janvier. À quelques kilomètres de là, leurs amis devant la prison de Washington manifestent leur joie. Ils portent des casquettes rouges. Pas des chapeaux signés des meilleurs créateurs. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et réaction d'Elon Musk après avoir été accusé d'avoir fait par deux fois un salut fasciste ou nazi lors d'un meeting de Donald Trump hier. L'homme le plus riche du monde estime qu'il s'agit d'une accusation usée et que ses détracteurs devront trouver mieux pour l'attaquer à l'avenir. Retour en France avec un procès très attendu qui s'ouvre dans quelques heures en Martinique, dans ce département français des Antilles. Rodrigue Petitot ainsi que trois autres membres du RPRAC, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, le leader du mouvement contre la vie chère, est jugé pour violation du domicile du préfet. Une audience qui sera très suivie alors qu'en Martinique, les mesures mises en place par le gouvernement depuis le début d'année sont jugées insuffisantes, mais le mouvement de contestation a du mal à mobiliser. Peggy Saint-Ville.
Myriam est l'une des anonymes qui suit avec attention tout ce qui se rattache à la question de la vie chère. Elle fait un constat sans équivoque.
Pour moi, le mouvement est en train de s'essouffler. Il est toujours aussi difficile d'acheter des produits alimentaires à des prix raisonnables, des fruits et légumes à des prix raisonnables, de la viande, du poisson, etc. Ce mouvement, il doit continuer, il doit trouver un nouveau souffle. Il a été initié par les membres du RPRAC, mais c'est à la population aussi de se saisir de cette problématique, à nos élus d'avoir le courage de continuer le combat mené.
Elle croit malgré tout à un renouveau.
Et finalement, certains arguments mis en avant par les membres de l'association, on s'en rend compte qu'un article d'investigation comme celui de Libération montre à la population qu'il y a un fond de vérité et je pense que ce sont des gens qui dérangent.
Olivier Lucenay, un ancien prêtre devenu influent sur les réseaux sociaux, a plusieurs fois manifesté aux côtés de Rodrigue Petitot.
J'ai plus qu'une sympathie, je suis à fond mobilisé avec eux, déjà bien lors des grands rendez-vous. Les rendez-vous clés que je tâche de ne pas rater, d'honorer. Et puis dans mon quotidien, ben, sur mes réseaux, sur mes différentes plateformes où je partage du contenu pour tenter à ma façon d'éveiller les consciences aussi dans la ligne de ce qui a été entamé par le RPRAC. Et puis personnellement, je m'engage aussi dans une consommation plus raisonnée, mais pas consommation consumériste.
Il regrette la répression qui sévit selon lui.
Si à chaque fois qu'un peuple se lève pour crier à l'injustice, il y a en face des répressions administratives, etc., ça pose fondamentalement la question de la justice, de la liberté d'expression, de la liberté de se mobiliser, et puis surtout, au fond, d'un peuple à réclamer, vivre décemment et à plus forte raison sur sa terre.
Mario Briand, l'un des co-accusés de Rodrigue Petitot, reste quant à lui confiant.
Les sympathisants et les militants qui sont à nos côtés, ils attendent depuis 2009. J'ai envie de dire qu'ils attendent même avant 2009. Donc maintenant, on a différents médias qui dénoncent aussi des choses. Les langues commencent à se délier. Il y a différentes personnes qui démontrent et qui disent qu'on avait raison. Il y a des marges qui sont faites, il y a des profits qui sont faits avec exagération. Il y a des montages financiers qui sont faits. Non, il est temps que ça change.
Myriam Olivier prévoit d'être à ses côtés parmi la foule qui attendra le verdict de mercredi, très attentif à la réponse judiciaire qui sera apportée par la justice. Peggy Saint-Ville, Fort-de-France, RFI.
Un mot de Corée du Sud et pour la première fois, Yoon Suk-yeol a assisté à une audience de son procès en destitution. Suspendu de ses fonctions de président, il s'est défendu devant les juges. Il n'a pas ordonné à l'armée d'intervenir pour empêcher les députés de contrecarrer sa volonté d'imposer la loi martiale. Le procès doit durer jusqu'en juin pour décider si Yoon Suk-yeol doit ou non être déchu définitivement de son poste de président. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.